Vous écoutez On lit pour vous.
Mes informations médicales. Comment se protéger en ligne? Un texte d'André Lavoie paru le 17 février 2026 dans Virage. Contrairement aux médecins dans le monde réel, le Dr Google n'a pas de liste d'attente et son cabinet virtuel est toujours ouvert. C'est donc tentant d'y poser nos questions. Le hic, sa fiabilité est loin d'être à la hauteur de son accessibilité. Selon un sondage commandé par l'Association médicale canadienne en 2024, 2 personnes sur 5 consultent Internet pour des conseils santé, notamment pour répondre à leurs préoccupations médicales. Or, selon certaines estimations, 50% des sources en ligne sont incomplètes ou incorrectes. Sans compter que les théories du complot pullulent, comme les vaccins causant l'autisme et la 5G provoquant le cancer, des affirmations sans fondement scientifique. Voilà qui devrait nous alerter sur la fiabilité relative des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux et nous amener à nous méfier des autodiagnostics potentiellement dangereux qui peuvent en découler. Ceci ne veut pas dire qu'il est impossible de trouver du contenu fiable et vérifié en ligne, mais qu'il faut prendre des précautions avant de faire nos recherches. 1. Formulez bien votre recherche. Portez attention aux mots-clés que vous utilisez. Chercher « douleur inflammatoire » et « explication » vous orientera vers des résultats plus généraux, tandis que chercher « douleur inflammatoire » et « traitement rapide » pourrait vous conduire vers des propositions douteuses supposément miraculeuses. Rappelez-vous que les algorithmes n'affichent pas les résultats les plus fiables, mais souvent les plus commentés, et ne tiennent compte ni de leur fiabilité ni de votre véritable état de santé. 2. Traquez l'origine de l'information. Avant de vous fier à un conseil santé sur le web, posez-vous quelques questions. D'où vient cette information médicale? Quand a-t-elle été publiée? Qui a rédigé l'article? Et quelle est son expertise? La personne qui vante un produit est-elle commanditée ou est-elle en conflit d'intérêts? Privilégiez le contenu des experts, des instituts de recherche ou des journalistes scientifiques. 3. Évitez de tomber dans le panneau. En quelques clics, vous pouvez découvrir une formule révolutionnaire pour soulager vos douleurs ou perdre beaucoup de poids en claquant des doigts. Peu importe votre condition, ces solutions miracles devraient susciter votre méfiance. Veut-on vous vendre quelque chose ou vous lier à un contrat difficile à résilier? On insiste sur l'aspect naturel d'un produit? Soyez sceptique. Naturel ne signifie pas sans danger. Sachez que l'uranium, l'arsenic et le mercure sont naturels. Et surtout, n'oubliez pas que certains produits vendus en pharmacie peuvent provoquer des interactions indésirables avec vos médicaments. 4. Privilégiez les sources fiables. Les sites gouvernementaux, universitaires ou d'institutions reconnues, ordres professionnels, hôpitaux, associations, regorgent d'informations pertinentes et vérifiées. Si vous consultez le site, le blog ou le texte d'un individu, vous devez voir clairement ses qualifications professionnelles. Médecin, pharmacien, nutritionniste, chercheur, journaliste scientifique. Ce qu'il affirme et diffuse doit être soutenu par des références bien identifiées, avec des liens menant aux études citées. 3 ressources en ligne à consulter. Conseil et prévention du gouvernement du Québec sur le site québec.ca. Tellement santé, le site de l'Association médicale canadienne sur le site cma.ca. L'Agence canadienne de santé publique sur le site canada.ca. Pour aller plus loin, pour découvrir les astuces du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, ainsi que les ateliers hashtag 30 secondes, avant d'y croire, destinés aux personnes aînées et animés par des journalistes de métier, visitez le site cqemi.org. C'était « Mes informations médicales. Comment se protéger en ligne ?» Un texte d'André Lavoie paru le 17 février 2026 dans Virage.
Devrais-je suivre mes collègues sur les réseaux sociaux? Un texte de Pierre-Luc Ouellet, paru le 5 juin 2026 dans le magazine Urbania. Je suis travailleur autonome. Je vends mes services à des clients. Nous négocions les termes et je fournis le service pour lequel ils ont payé. C'est ce que je fais ici, avec Urbania. Ils me passent une commande et je leur fournis un texte plein d'état d'âme et de jeux de mots douteux. Ces collègues-ci, je les ajoute sur mes réseaux sociaux avec plaisir. À l'occasion, il m'arrive aussi d'avoir des emplois plus traditionnels. J'ai notamment fait des sondages au téléphone, été caissier de dépanneur et travaillé au service à la clientèle d'une compagnie de cartes de crédit. Boring! Et ces collègues-là, en ligne, je les évite comme la peste. Pourquoi c'est si différent? Devrais-je ajouter mes collègues de bureau sur les réseaux sociaux? Deux poids, deux mesures. Comme travailleur autonome, j'œuvre dans le milieu de l'humour. D'emblée, j'ai plus d'intérêt à suivre mes collègues humoristes et auteurs. En plus d'être très drôles, ils sont les seuls qui postent encore sur Facebook. Chaque fois que je vois un post de mon ami, l'auteur Simon Laroche, je me réjouis. Il est hilarant et réussit toujours à me surprendre. Checkez comme il est drôle! En plus du divertissement gratuit, j'ai aussi un incitatif professionnel à maintenir, une relation numérique avec ses collègues, les réseaux sociaux étant devenus une forme de réseautage professionnel. Grâce à Facebook et Instagram, je peux voir quand des collègues producteurs annoncent des projets ou disent être à la recherche d'auteurs. Et dans un milieu où il faut toujours pousser pour trouver du travail et ne pas se faire oublier, les réseaux sociaux me permettent de maintenir une visibilité auprès des gens avec qui je pourrais éventuellement travailler. Mais pour mes emplois salariés, c'est différent. Il n'y a aucune motivation professionnelle à voir les publications de collègues normaux. Ai-je besoin de savoir ce que Denise, de la comptabilité, a mangé pour souper? Quand j'avais un emploi régulier, je n'avais pas vraiment l'impression qu'ajouter mes collègues sur Instagram m'aiderait dans ma carrière. Au contraire même, je n'ai pas nécessairement envie que mes collègues connaissent mes opinions politiques, que je ne me gêne pas pour partager sur mes réseaux sociaux. J'ai quand même un podcast qui s'appelle « Manger les riches ». Tu sais, admettons que je suis une mauvaise personne qui a déjà fait semblant d'être malade pour ne pas rater un souper de famille pour lequel il n'avait pas eu de congé. Heureusement, je ne ferais jamais ça. Je n'ai pas nécessairement envie d'être stoulée par des collègues, ou pire, un patron. En tout cas, si je suis une mauvaise personne, je suis loin d'être le seul. Des études démontrent que des frontières floues entre les réseaux sociaux et la vie professionnelle peuvent contribuer à un sentiment d'anxiété chez les employés. Qu'en disent les experts? Alors, est-ce que c'est moi qui suis parano? Ou ajouter ses collègues sur les réseaux sociaux, c'est une mauvaise idée? Il ne semble pas y avoir de consensus chez les experts. Dans un article pour The Muse, la psychologue Shanila Karunaratne est d'avis que si on ajoute des collègues sur les réseaux sociaux, notre présence numérique risque de devenir une extension de notre réputation professionnelle. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux peuvent nous nuire. Ça se peut qu'on soit plus réticent à confier un dossier important à Maxime, après l'avoir vu sous, en bobette, faire semblant de faire l'amour, pour être poli, avec un Ronald McDonald en plastique, dans une story Instagram, mettons. Les histoires de gens qui perdent leur emploi en raison d'une publication sur les réseaux sociaux ne sont pas rares. D'un côté, ça permet à une entreprise de s'assurer qu'un employé a des valeurs qui reflètent celles de l'entreprise. Par exemple, si un policier se montre ouvertement raciste sur les réseaux sociaux, un employeur potentiel pourrait opter de ne pas l'engager, parce qu'on sait très bien que les corps policiers ne tolèrent jamais le racisme. Les réseaux sociaux et le lot de surveillance qu'ils apportent peuvent déborder vers une invasion de la vie privée et qu'un employé peut être puni pour quelque chose qui ne relève pas de son travail. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri qu'une de nos publications se retrouve entre les mains de notre employeur, qu'on soit ami avec, sur Facebook ou non. On n'est aussi jamais à l'abri d'une capture d'écran par un ami Facebook mal intentionné. Et, évidemment, les commentaires qu'on laisse sous des publications sont publics. Donc, si vous avez des opinions problématiques que vous tenez absolument à partager sur la place publique, je vous recommanderais, en premier lieu, de faire de la thérapie. En deuxième lieu, je vous conseillerais d'écrire ça dans votre journal intime plutôt que sur les réseaux sociaux. Selon un sondage publié en 2023, 86 % des entreprises seraient prêtes à renvoyer un employé pour ses publications sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui nous encourage à prendre conscience de notre hygiène numérique. Au terme de mes lectures, je pense continuer à faire ce que je faisais déjà. N'est-ce pas là le résultat d'à peu près tous les débats? Je compte continuer à ajouter mes collègues drôles et à faire du réseautage. Mais j'éviterai d'ajouter des gens avec qui je n'ai pas envie de tisser de liens et qui pourraient carrément me nuire. C'était évident dans le fond. C'était « Devrais-je suivre mes collègues sur les réseaux sociaux? » Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 5 juin 2026 dans le magazine Urbania.
La bromance de Carney est plus sérieuse qu'on pense. Un texte de Stéphanie Grandmont, publié dans la presse du 18 avril 2026. Les bromances de nos premiers ministres canadiens sont à l'image de la géopolitique mondiale. Il y a 10 ans, Justin Trudeau et le président américain Barack Obama ne cachaient pas leurs atomes crochus. Cette semaine, la complicité entre Mark Carney et Alexander Stubb était manifeste lors du passage du président finlandais à Ottawa. Les deux hommes se textent quotidiennement, ont joué ensemble au hockey. Triathlon accompli, Stubb est un as de la diplomatie sportive. Ses talents de golfeur lui ont valu le respect de Donald Trump, qui l'écoute davantage que bien d'autres chefs d'État européens. Le mois dernier, Alexander Stubb a fait une audacieuse suggestion à Mark Carney lors d'un jogging dans Hyde Park, au cœur de Londres, avec leurs conjointes respectives. Pourquoi ne pas réfléchir à l'entrée du Canada dans l'Union européenne? Citation, ce serait un mariage fait au paradis. Fin de citation, a réitéré Alexander Stubb en entrevue avec la presse. Citation, sur des questions de sécurité liées à l'OTAN ou à l'Ukraine, par exemple, je ne vois aucune différence entre un membre de l'Union européenne et le Canada. Pour moi, Mark est aussi proche que n'importe quel dirigeant européen. insiste M. Staub, qui s'exprime dans un très bon français. L'adhésion du Canada à l'Union européenne plaît à plus de 80 % des Canadiens, même si elle est peu réaliste. Cela pourrait forcer la réouverture de notre Constitution et faire tomber nos accords de libre-échange actuels. Mais le Canada aurait avantage à se rapprocher du vieux continent. Citation. Plus le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Canada est étroit, mieux c'est, estime Alexander Staub. Fin de citation. Pourquoi ne pas commencer par tirer le maximum de l'accord économique et commercial global? Même si cet accord de libre-échange est appliqué provisoirement depuis une décennie, 10 des 27 pays européens ne l'ont pas encore ratifié, dont la France, la Belgique et l'Italie. D'un point de vue militaire, le Canada pourrait aussi renforcer ses liens avec l'Europe, qui cherche un plan de secours en cas de retrait des États-Unis de l'OTAN, comme le titrait le Wall Street Journal cette semaine. Il faut dire que Donald Trump, frustré de ne pas avoir eu d'aide en Iran, vient de traiter ses alliés de « lâches » et l'OTAN de « tigres de papier ». Ici, Alexander Staub lance un appel au calme. Citation. Les États-Unis ne quitteront pas l'OTAN, dit-il. Fin de citation. Oui, les Américains vont réduire leurs troupes en Europe. Citation, mais ce ne sera pas catastrophique, tempère le président finlandais. Fin de citation. Pour lui, il est même souhaitable que l'Europe assume davantage sa propre défense tant que la transition est gérée et contrôlée. Le défi reste considérable. Les États-Unis ont toujours été la colonne vertébrale de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Sans eux, le risque d'éparpillement est réel, car tous les pays veulent faire profiter leur propre industrie de la hausse des dépenses militaires. Citation. Nous devons coordonner notre système militaire, qu'il s'agisse de défense aérienne, de chars ou d'avions, pour nous assurer qu'ils sont compatibles, afin que nous n'entrions pas dans ce genre de spirale de concurrence stupide et descendante, insiste Alexander Staub. Fin de citation. En cette période trouble, le président finlandais possède un atout dont la planète a grandement besoin, de l'optimisme. Citation, c'est facile d'énumérer tout ce qui va mal et de se concentrer sur les menaces. C'est plus difficile de trouver des solutions. Le pessimisme mène à l'inaction, l'optimisme à l'action, le réalisme aux solutions, écrit-il dans son excellent ouvrage « The Triangle of Power ». En matière de défense, la Finlande offre des solutions inspirantes. Le pays a réussi à placer la sécurité nationale au-dessus des tranchées de la politique partisane. Sa persévérance l'a aidé à maintenir l'effort au fil des décennies, alors que l'Occident baissait la garde. Toute la société finlandaise est impliquée dans la préparation aux crises, de la petite école jusqu'aux hauts dirigeants d'entreprise. La sécurité est l'affaire de tous, pas que des militaires, comme nous l'avons raconté dans un récent reportage en Finlande. En matière de géopolitique, le président Staub a aussi des pistes pour restaurer l'ordre mondial déchiré par les grandes puissances. Citation, si nous voulons trouver des solutions au changement climatique, à la technologie, à l'énergie, au conflit, nous devons coopérer, dit-il. Une énorme majorité de pays censés dans ce monde veulent avoir un ordre mondial fondé sur des règles. C'est juste que les pays du Sud ont le sentiment que ces règles ont été créées pour l'Ouest. C'est pourquoi nous devons les changer, dit M. Staub, qui voudrait accorder plus de pouvoir aux pays émergents à l'ONU. Alors que les États-Unis rejettent les institutions internationales, Alexander Staub compte sur un bloc de pays du Nord pour agir. Citation, j'y intégrerai très confortablement le Canada parce que vous êtes manifestement une nation arctique, dit-il. Fin de citation. L'Arctique? L'amour du hockey? Le Canada et la Finlande ont beaucoup en commun. Mais à propos, qui a gagné cette fameuse joute entre les premiers ministres? Citation. On jouait pour la même équipe, répond Alexander Staub. Fin de citation. Habile patineur, ce président, à l'aréna comme dans l'arène géopolitique. Fin de La bromance de Carnet est plus sérieuse qu'on pense. Un texte signé Stéphanie Grandmont, éditorialiste en chef de La Presse, publié dans l'édition du 18 avril 2026 de ce journal.
L'IA vous rappelle de laver vos mains. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Un voyant jaune, puis un discret signal sonore. À l'hôpital général de Montréal, les soignants qui ne se lavent pas les mains avant de voir un patient recevront bientôt une alerte d'un système d'intelligence artificielle, IA, muni de capteurs 3D à infrarouge. Le centre hospitalier veut réduire les infections contractées dans ses murs. Dans cet hôpital, 67 % des soignants se lavent convenablement les mains, selon les résultats du dernier audit mené en 2025-2026 et obtenu par La Presse grâce à une demande d'accès à l'information. Le taux de conformité à l'hygiène des mains devrait atteindre 80 % d'après Santé Québec. Dans le feu de l'action, bien des employés oublient de se laver les mains ou de les frictionner avec du gel hydroalcoolique, selon le Dr. Alan Forster, directeur de l'innovation, de la performance et de la qualité au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, dont fait partie l'Hôpital général de Montréal. Le nouveau système d'IA ambiante, appelé AIMS, AIMS, vise à le leur rappeler. Le CUSUM prévoit l'activer le mois prochain dans les chambres où il a déjà été installé, soit environ 15 % d'entre elles, indique le Dr. Forster. Ce n'est pas une caméra, précise-t-il. Aucune vidéo ou image fixe n'est enregistrée. Les capteurs 3D à infrarouge, fixés au plafond des chambres et des corridors, ne permettent pas d'identifier les individus, assure-t-il. L'intelligence artificielle est capable de détecter des types de mouvements spécifiques, comme quand les mains ont été lavées versus quand elles ne l'ont pas été, dit le Dr. Forster. L'outil s'est avéré efficace à l'hôpital d'Ottawa. Dans une unité d'essai, les soignants ont été près de 19 % plus nombreux à se laver les mains adéquatement après son implantation en 2023, indique le centre hospitalier. En 15 mois, les éclosions ont diminué de plus de 90 %, précise-t-il. L'hygiène des mains est une mesure essentielle pour réduire les infections dites nosocomiales, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans les pays développés, de 5 à 15% des patients hospitalisés vont contracter une infection dans les murs de l'hôpital, signale-t-elle. Un problème partout au Québec. Au Québec, beaucoup de soignants omettent de se laver les mains lorsqu'ils interviennent auprès de patients. La Presse a fait une demande d'accès à l'information à une trentaine d'établissements de santé québécois afin d'obtenir le taux de conformité à l'hygiène des mains de leurs hôpitaux. Deux n'ont pas répondu. Certains ont fourni des chiffres globaux, incluant les CHSLD. Ils ont été exclus de notre calcul. Selon les données obtenues, 15 hôpitaux sur 83 atteignent ou dépassent la barre de 80 % en 2024-2025. Près de 15 autres s'en approchent avec un taux de plus de 75 %. L'hôpital du Saint-Sacrement, situé à Québec, a obtenu un score de 39 % en 2024. En date du 1er avril 2026, ce taux était passé à 43 % selon le CHU de Québec, Université Laval, qui gère le centre hospitalier. L'hygiène des mains est un élément pris très au sérieux par l'organisation, écrit dans un courriel sa porte-parole, Marie-Lou Couture.
Des formations et activités de sensibilisation sont réalisées. Grâce à des tournées de risques infectieux, l'équipe de prévention et de contrôle des infections, PCI, a pu accompagner les travailleurs, ajoute-t-elle. À l'hôpital régional de Rimouski, le taux s'est élevé à 57 % en 2024-2025. Le CIS du Bas-Saint-Laurent reconnaît que ce centre hospitalier a de la difficulté à atteindre de bons résultats. L'établissement dit préparer un nouveau plan d'action et mener des campagnes de sensibilisation. On a aussi impliqué nos usagers en les invitant à rappeler poliment au personnel soignant l'importance de l'hygiène des mains lorsque nécessaire, indique son porte-parole Gilles Bélanger dans un courriel. Trouver des solutions. Les taux de conformité à l'hygiène des mains ont diminué au Québec après la pandémie de COVID-19. Il reste que les audits menés par les établissements de santé ne sont qu'une photographie à un moment donné, rappelle Geneviève Campbell, présidente de l'Association des infirmières en prévention des infections. Dans la majorité des cas, dit-elle, les gens savent quand ils doivent se laver les mains. Le défi, ce n'est pas tant la connaissance que les conditions, davantage, dans lesquelles les soins vont être donnés. La charge de travail élevée, le manque de personnel, la complexité des soins et la facilité d'accès aux moyens de se laver les mains peuvent influencer le comportement des soignants, affirme Geneviève Campbell. Selon elle, il faut déterminer, avec les équipes de soignants sur le terrain, les obstacles au lavage des mains. Des stratégies peuvent ensuite être trouvées, poursuit-elle, pour tenter de faire de ce geste un réflexe, comme attacher sa ceinture en voiture. Il n'y a pas de recette magique, dit Geneviève Campbell. On n'a pas encore mis le doigt sur la stratégie qui fait que les gens se lavent les mains 100 % du temps. Le lavage des mains en 4 moments clés. Avant de toucher au patient ou à son environnement, avant une intervention stérile, exemple changement de pansement, après un risque de contact avec du liquide organique, exemple changement de culotte d'incontinence, ou lors du retrait des gants, après un contact avec l'usager ou son environnement. Source, Institut national de santé publique du Québec et des établissements de santé. C'était « L'IA vous rappelle de laver vos mains », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.